fantôme qui parle. Que pouvons-nous dire de la vie spirituelle et mentale des anciens chasseurs-cueilleurs? Il est possible de reconstituer la base de l'économie fourragère avec une certaine assurance sur la foi de facteurs objectifs et quantifiables. Par exemple, nous pouvons calculer de combien de calories une personne avait besoin par jour pour survivre, combien de calories apportait un kilo de noix et combien de noix il était possible de récolter sur un kilomètre carré de forêt. Fort de ces indications, nous pouvons nous livrer à des conjectures solides sur l'importance relative des noix dans leur alimentation. Mais les noix étaient-elles pour eux un mets de choix ou un produit de base banale? Croyaient-ils que des esprits habitaient les noyers? Trouvaient-ils leurs feuilles jolies? Si un garçon qui fourrageait voulait entraîner une fille dans un coin romantique, l'ombre d'un noyer faisait-elle l'affaire? Le monde de la pensée, des croyances et de la sensibilité est par définition bien plus difficile à déchiffrer. La plupart des savants s'accordent à penser que les croyances animistes étaient répandues chez les anciens fourrageurs. L'animisme, du latin anima, âme ou esprit, est la croyance suivant laquelle presque chaque lieu, chaque animal, chaque plante, chaque phénomène naturel a une conscience et des sentiments, et peut communiquer directement avec les humains. Ainsi, les animistes peuvent-ils croire que le gros rocher, au sommet de la colline, a des sentiments, des désirs et des besoins? Ils pourraient en vouloir à certains de ce qu'ils ont fait ou se réjouir d'une autre action. Ils pourraient avertir les gens ou leur demander des faveurs. Les hommes, quant à eux, peuvent s'adresser au rocher, histoire de l'amadouer ou de le menacer. Mais le rocher n'est pas le seul être animé. Ainsi, en va-t-il également du chêne au pied de la colline, du ruisseau qui coule plus en aval, de la source dans la clairière, des buissons qui poussent tout autour, du chemin qui mène à la clairière, des souris des champs, des loups et des corbeaux qui viennent y boire. Dans le monde animiste, les objets et les choses vivantes ne sont pas les seuls êtres animés. Il existe aussi des entités immatérielles, les esprits des morts, les êtres amicaux et malveillants, ceux que nous appelons de nos jours les démons, les fées et les anges. Pour les animistes, aucune barrière ne sépare les humains des autres êtres. Tous peuvent communiquer directement par la parole, le chant, la danse et les cérémonies. Un chasseur peut s'adresser à un troupeau de cerfs et demander à l'un d'eux de se sacrifier. Si la chasse réussit, le chasseur peut prier l'animal mort de lui pardonner. Si quelqu'un tombe malade, un chaman peut contacter l'esprit qui est la cause de la maladie et tâcher de l'apaiser ou de l'effrayer. Au besoin, il peut appeler d'autres esprits à la rescousse. Ce qui caractérise tous ces actes de communication, c'est que les entités auxquelles on s'adresse sont non pas des dieux universels, mais des êtres locaux, un arbre, un ruisseau ou un spectre particulier. De même qu'il n'y a pas de barrière entre les hommes et les autres êtres, de même, il n'y a pas de hiérarchie stricte. Les entités non humaines n'existent pas simplement pour satisfaire les besoins de l'homme. Il n'y a pas non plus de dieu tout-puissant qui dirige le monde à leur guise. Le monde ne tourne pas autour des hommes ni autour d'aucun autre groupe d'êtres en particulier. L'animisme n'est pas une religion spécifique. C'est le nom générique de milliers de religions, de croyances et de cultes très différents. Ce qui les rend animistes, c'est cette manière commune d'aborder le monde et la place que l'homme y occupe. Dire que les anciens fourrageurs étaient probablement animistes ou que la plupart des agriculteurs étaient théistes sont des affirmations du même ordre. Le théisme, du grec théos, Dieu, est l'idée que l'ordre universel repose sur une relation hiérarchique entre les hommes et un petit groupe d'êtres éthérés que l'on appelle Dieu. Il est certainement légitime de dire que les agriculteurs prémodernes étaient naturellement théistes, mais cela ne nous apprend pas grand-chose de précis. La rubrique générique théiste est très large. Des rabbins juifs polonais du XVIIIe siècle aux puritains brûleurs de sorcières du Massachusetts au XVIIe siècle, des prêtres aztèques du Mexique au XVe siècle ou des soufis iraniens du XIIe aux guerriers vikings du Xe, aux légionnaires romains du IIe et aux bureaucrates chinois du Ier siècle. Chacun de ces groupes jugeait les croyances et pratiques des autres bizarres et hérétiques. les différences de croyances et de pratiques entre groupes d'animistes étaient probablement tout aussi importantes. Sans doute leur expérience religieuse était-elle turbulente et riche en controverses, réformes et révolutions. On ne saurait pourtant aller au-delà de ces généralisations prudentes. Toute tentative pour décrire les détails de la spiritualité archaïque demeure hautement spéculative, et l'on n'a pour ainsi dire aucune preuve. Quant au peu d'éléments que nous possédons, une poignée d'artefacts et de peintures rupestres, ils se prêtent à des interprétations multiples. Les théories des chercheurs qui prétendent savoir ce qu'éprouvaient les fourrageurs en disent plus long sur leurs propres préjugés que sur les religions de l'âge de pierre. Plutôt que de faire une montagne d'un rien, d'échafauder des théories sur quelques reliques tombales, peintures rupestres et statuettes en os, mieux vaut être franc et admettre que nous n'avons que des notions pour le moins nébuleuses sur les religions des anciens fourrageurs. Nous supposons qu'ils étaient animistes, mais cela ne nous éclaire guère. Nous ne savons pas quels esprits ils priaient, quelles fêtes ils célébraient, ni quels tabous ils observaient. Qui plus est, nous ignorons quelles histoires ils racontaient. C'est une des plus grosses lacunes de notre intelligence de l'histoire humaine. L'univers sociopolitique des fourrageurs est encore un domaine dont nous ne savons quasiment rien. Ainsi qu'on l'a expliqué, les spécialistes ne parviennent même pas à s'entendre sur la base, existence de la propriété privée, famille nucléaire et relations monogames. Probablement, les bandes avaient-elles des structures différentes. Certaines étaient sans doute aussi hiérarchiques et violentes que le groupe de chimpanzés le plus hargneux, et d'autres aussi décontractées, paisibles et lascives qu'une bande de bonobos. À Sungir, en Russie, des archéologues ont découvert un site d'inhumation de 30 000 ans appartenant à une culture de chasseurs de mammouths. Une tombe contenait le squelette d'un homme de 50 ans, couvert de colliers de perles en ivoire de mammouth. Au total, la tombe en contenait autour de 3 000. La tête du mort était coiffée d'un chapeau orné de dents de renard. Ses poignets étaient ornés de 25 bracelets d'ivoire. D'autres tombes du même site étaient bien moins fournies. Les spécialistes en déduisirent que les chasseurs de mammouths de Sungir vivaient dans une société hiérarchique et que le mort était peut-être le chef d'une bande ou d'une tribu formée de plusieurs bandes. Il est peu probable que quelques douzaines de membres d'une seule bande aient pu produire à eux seuls tant d'articles funéraires. Les archéologues découvrirent ensuite une tombe encore plus intéressante, avec deux squelettes enterrés en tête à tête. L'un était celui d'un garçon de 12-13 ans, l'autre celui d'une fillette de 9-10 ans. Le garçon était couvert de 5000 perles d'ivoire et portait un chapeau à dents de renard et une ceinture de 250 dents pour laquelle il avait fallu tuer au moins 60 renards. La fille était parée de 5250 perles d'ivoire. Les deux enfants étaient entourés de statuettes et de divers objets d'ivoire. Un artisan qualifié, homme ou femme, avait probablement besoin de 3/4 d'heure pour préparer une seule perle. Autrement dit, le façonnage des 10 000 perles qui recouvraient les deux enfants, sans parler des autres objets, nécessitait 7 500 heures de travail délicat. Largement plus de 3 ans de travail pour un artisan chevronné. Il est très peu probable qu'à un âge aussi jeune, les enfants de Sungir aient été des chefs ou des chasseurs de mammouths. Seules des croyances culturelles peuvent expliquer un enterrement d'une telle extravagance. Une première théorie et qu'ils devaient leur rang à leurs parents. Peut-être étaient-ils les enfants du chef dans une culture qui croyait au charisme familial ou qui appliquait des règles de succession strictes. Selon une deuxième théorie, on aurait reconnu à la naissance, dans ces enfants, l'incarnation d'esprits de longue date disparus. Mais une troisième théorie soutient que l'enterrement des enfants est un reflet des conditions de leur mort, plutôt que de leur rang dans la vie. Ils auraient été rituellement sacrifiés, peut-être dans le cadre des rites d'inhumation du chef, puis placés dans leur tombe en grande pompe. Quelle que soit la bonne réponse, les enfants de Sungir sont parmi les premières preuves que, voici 30 000 ans, Sapiens pouvait inventer des codes sociopolitiques qui allaient bien au-delà des diktats de notre ADN et des formes de comportement des autres espèces humaines et animales. Guerre ou paix ? Pour finir, il y a l'épineuse question du rôle de la guerre dans les sociétés de fourrageurs. Certains spécialistes imaginent les anciennes sociétés de fourrageurs comme de paisibles paradis et assurent que la guerre et la violence n'ont commencé qu'avec la révolution agricole et la propriété privée, quand les gens se sont mis à accumuler. D'autres assurent que le monde des anciens fourrageurs était exceptionnellement cruel et violent. Les deux écoles de pensée se bercent de chimères, échafaudant des théories qui reposent sur de maigres restes archéologiques et l'observation anthropologique des fourrageurs actuels. Les données anthropologiques sont fascinantes, mais pour le moins problématiques. De nos jours, les fourrageurs vivent surtout dans des régions isolées et inhospitalières comme l'Arctique ou le Kalahari, où la densité de population est très faible et où les occasions de se battre contre d'autres populations sont limitées. D'autre part, les dernières générations de fourrageurs ont été de plus en plus soumises à l'autorité des États modernes, qui empêchent les conflits de grande ampleur. Les savants européens n'ont eu que deux occasions d'observer de grandes populations relativement denses de fourrageurs indépendants, en Amérique du Nord, au Nord-Ouest, au XIXe siècle, et dans le nord de l'Australie au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les Amérindiens, comme les aborigènes d'Australie, se distinguaient par une forte fréquence de conflits armés. La question demeure ouverte de savoir si c'était un état intemporel ou l'effet de l'impérialisme européen. Les éléments archéologiques sont à la fois rares et opaques. Quelle trace parlante peut laisser une guerre qui s'est déroulée il y a des dizaines de milliers d'années? En ce temps-là, il n'y avait ni fortifications ni murs, pas d'obus, pas d'épée, ni même de bouclier. Une pointe de lance a fort bien pu servir à la guerre, mais elle a pu tout aussi bien être utilisée à la chasse. Les ossements humains fossilisés ne sont pas moins difficiles à interpréter. Une fracture peut être le signe d'une blessure de guerre ou d'un accident. L'absence de fracture ou d'entaille sur un squelette ne prouve aucunement que son propriétaire ne soit pas mort de mort violente. La mort peut résulter d'une lésion des tissus mous qui ne laisse aucune trace sur les os. Qui plus est, dans la guerre pré-industrielle, plus de 90% des victimes mouraient de faim, de froid ou de maladie plutôt qu'elles n'étaient tuées par des armes. Imaginez une tribu qui, voici 30 000 ans, triomphe de sa voisine et la chasse du terrain fourragé convoité. Au cours de la bataille décisive, 10 membres de la tribu vaincue sont tués. L'année suivante, 100 membres de la tribu défaite mourront de faim, de froid ou de maladie. Les archéologues, qui tombent sur ces 110 squelettes, sont tentés de conclure que la plupart ont été victimes d'une catastrophe naturelle. Comment pourrions-nous dire que tous ont été victimes d'une guerre sans merci? Dûment prévenus, nous pouvons maintenant nous pencher sur les découvertes archéologiques. Au Portugal, une étude a été menée sur 400 squelettes de la période qui précède immédiatement la révolution agricole. Deux squelettes seulement présentaient des marques claires de violence. Une étude, portant sur un échantillon équivalent de la même période en Israël, a mis en évidence une seule fracture crânienne imputable à des violences humaines. Une troisième enquête, sur 400 squelettes de divers sites pré-agricoles de la vallée du Danube, a dénombré 18 cas de violence. 18 sur 400. Cela peut sembler assez peu. En vérité, il s'agit d'un pourcentage très élevé. Si les 18 sont tous morts de mort violente, cela veut dire que les violences étaient à l'origine de 4,5% des morts dans l'ancienne vallée du Danube. De nos jours, la moyenne mondiale n'est que de 1,5%, guerres et crimes confondus. Au XXe siècle, 5% seulement des morts ont été le fait de violences humaines, et ce, dans un siècle qui a vu les guerres les plus sanglantes et les génocides les plus massifs de l'histoire. Si cette révélation est typique, l'ancienne vallée du Danube était aussi violente que le XXe siècle. Bien sûr, on pourrait soutenir que les 18 Danubiens anciens ne sont pas tous morts des violences dont leurs restes portent les marques. Certains ne furent que blessés. Mais probablement, est-ce compensé par les morts liées aux traumas touchant les tissus mous et aux privations invisibles qui accompagnent la guerre? Les découvertes affligeantes de la vallée du Danube sont corroborées par une série de découvertes tout aussi déprimantes dans d'autres régions. Au Djebel Saaba, au Soudan, a été découvert un cimetière vieux de 12 000 ans et réunissant 59 squelettes. Dans les eaux, ou à proximité de 24 squelettes, soit 40% du total, on a retrouvé des fers de lance ou des pointes de flèches. Un squelette de femme portait 12 traces de blessures. Dans la grotte d'Offnet, en Bavière, des archéologues ont découvert les restes de 38 fourrageurs, essentiellement de femmes et d'enfants, dont les corps avaient été jetés dans des fosses. La moitié des squelettes, y compris ceux des enfants et des bébés, portaient des traces claires d'impact d'armes humaines telles que des gourdins ou des couteaux. Les squelettes d'hommes plus âgés portaient les pires marques de violence. Toute une bande de fourrageurs fut probablement massacrée à Offnet. Des squelettes indemnes d'Israël et du Portugal, ou des abattoirs du Djebel Saaba et d'Offnet, lesquels représentent le mieux le monde des anciens fourrageurs? Ni les uns, ni les autres. La diversité des taux de violence chez les fourrageurs n'était probablement pas moindre que celle des religions et des structures sociales. Certaines régions et certaines périodes ont pu jouir de la paix et de la tranquillité, quand d'autres furent déchirées par des conflits féroces. Voile de silence. S'il est difficile d'avoir une vue d'ensemble de la vie des anciens fourrageurs, les événements particuliers nous demeurent largement hors d'atteinte. La première fois qu'une bande de sapiens pénétra dans une vallée peuplée de Néandertals, les années suivantes ont bien pu connaître un drame historique à couper le souffle. Malheureusement, rien n'aura survécu d'une telle rencontre, si ce n'est, dans le meilleur des cas, quelques os fossilisés et une poignée d'outils de pierre qui opposent le silence aux chercheurs qui les pressent de questions. Nous pouvons en tirer des renseignements sur l'anatomie, les techniques et l'alimentation, voire sur les structures sociales. Mais tout cela ne nous dit rien de l'alliance politique forgée entre bandes voisines de sapiens. Rien non plus des morts qui bénirent cette alliance, ni des perles d'ivoire secrètement données aux sorciers locaux pour obtenir la bénédiction des esprits. Ce voile de silence enveloppe plusieurs dizaines de milliers d'années d'histoire. Ces longs millénaires ont pu être jalonnés de guerres et de révolutions, de mouvements religieux extatiques, de théories philosophiques profondes et de chefs-d'œuvre artistiques incomparables. Les fourrageurs ont bien pu avoir des Napoléons conquérants à la tête d'empires d'une superficie équivalent à la moitié du Luxembourg, des Beethoven doués qui manquaient d'orchestre symphonique mais qui arrachaient des larmes au son de leur flûte de bambou, et des prophètes charismatiques qui révélèrent les paroles d'un chêne local plutôt que d'un dieu créateur universel. Mais ce ne sont que conjectures. Le voile de silence est si épais qu'on ne saurait être sûr que de telles choses se soient produites, encore moins en donner une description détaillée. Les chercheurs ont tendance à poser uniquement les questions auxquelles ils peuvent raisonnablement espérer répondre. Sauf découverte d'outils de recherche encore indisponibles, comme des machines à remonter le temps ou des séances de spiritisme avec de lointains ancêtres, nous ne saurons probablement jamais ce que croyaient les fourrageurs anciens, ni quel drame politique ils connurent. Or, il est vital de poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse, sans quoi on pourrait être tenté de balayer d'un revers de main 60 000 ou 70 000 années d'histoire humaine, sous prétexte que les populations qui vécurent en ce temps-là n'ont rien fait d'important. La vérité est qu'elles ont fait des tas de choses importantes. Elles ont fait le monde qui nous entoure, bien plus largement que la plupart en ont conscience. Les marcheurs qui arpentent la toundra sibérienne, les déserts d'Australie centrale et la forêt tropicale amazonienne imaginent entrer dans des paysages immaculés, quasiment préservés de tout contact humain. Mais c'est une illusion. Les fourrageurs sont passés par là avant nous et ont produit des changements spectaculaires jusque dans les jungles les plus denses et les déserts les plus désolés. Le prochain chapitre expliquera comment les fourrageurs ont entièrement remodelé l'écologie de notre planète bien avant la construction du premier village agricole. Les bandes itinérantes de sapiens conteurs d'histoire ont été la force la plus importante et la plus destructrice que le royaume animal ait jamais produite.